Ambiante Memory sur Radio Graphite, l'émission dédiée aux musiques ambiantes. Philippe Hall vous transporte vers un nouveau voyage. Ambiante Memory, l'interview.
Bonsoir à toutes et à tous, Ambiante Memory, l'interview. Je reçois ce soir Sébastien, un artiste français expatrié aux États-Unis et plus précisément à Chicago. Sébastien vient nous parler de son projet Ambient Electronica Indie Rock Power Out the Light qui mêle électronique et acoustique. Il nous fera part de son parcours et de ses projets à venir. Nous allons découvrir son univers. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir.
Eh bien écoute, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation d'Ambient Memory. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des artistes d'un petit peu partout, de tous les continents du monde, et là plus particulièrement donc les États-Unis. Donc on va parler bien sûr de ton projet, de ton parcours musical et d'autres choses aussi si tu le veux bien. Mais pour commencer tranquillement, est-ce que tu peux te présenter pour... que les auditeurs puissent te découvrir.
Merci Philippe, merci de ton intérêt pour mon projet. Donc, je suis Sébastien Michneau, je compose et je produis de la musique sous le nom d'artiste Pour Out the Light. Je suis basé à Chicago, aux États-Unis, comme tu l'as dit, où j'habite maintenant depuis 15 ans. Et voilà, donc je compose de la musique... dans des styles assez différents et variés qui correspondent en fait à mes goûts musicaux qui sont assez éclectiques.
Très bien. Mais du coup, est-ce que tu es aussi musicien? Est-ce que justement tu es quelqu'un qui a appris un instrument de musique, ou tu es plutôt autodidacte? C'est-à-dire que tu aimes bien découvrir les instruments, les machines et bidouiller?
Oui, alors je suis complètement autodidacte en fait, parce que je ne viens malheureusement pas d'une famille qui était musicale. J'ai toujours voulu apprendre la musique depuis un très jeune âge, et du fait de ce milieu familial en fait, malheureusement je n'ai pas pu apprendre d'instrument. Au début c'était le piano qui me fascinait, plus tard c'était la guitare et la guitare électrique. J'ai toujours été fasciné par les synthétiseurs en fait. J'ai eu un orgue bon tant pis quand j'étais plus jeune, comme la plupart des enfants de ma génération en ont eu à un certain moment. Donc je n'avais malheureusement pas la possibilité d'apprendre d'instrument. Enfin, j'ai quand même fait de la flûte à bec en école primaire. Mais sinon, j'ai eu la chance, après avoir économisé pendant de très longues années, de pouvoir m'acheter un petit synthétiseur qui était le tout petit frère du Yamaha DX7. Je ne sais pas si tu connais aussi, les auditeurs connaissent, mais c'était le Yamaha DX100, un petit synthétiseur FM digital. Ça a été en fait le début de mon apprentissage, même si je n'ai pas pu en fait... compléter cet achat par d'autres achats qui auraient pu me permettre de composer à l'aide d'ordinateurs. Il a fallu que j'attende d'avoir un métier qui me permette de gagner ma vie vers 23-24 ans pour vraiment investir en fait dans la constitution d'un petit studio qui est maintenant devenu assez conséquent. Et donc d'apprendre sur le tas en fait la musique, aussi bien de manière théorique pour tout ce qui est composition, mais aussi pour tout ce qui est production, ingénierie. Ingénierie c'est un bien gros mot, mais disons l'enregistrement, le mixage et tous les aspects de la production en fait de musique que j'ai appris en fait sur le tas. Et récemment en fait ça faisait depuis quoi enfin ça fait depuis au total ça fait quand même depuis 25 ans que je tourne autour du pot, si je peux dire ainsi, avec la musique, parce que je suis à la fois j'étais très intéressé par tout ce qui est le design sonore, donc la synthèse analogique et digitale. Et puis j'étais aussi intéressé par la composition, mais je commençais à faire des morceaux, mais je les finissais jamais vraiment. Et puis j'ai appris finalement, j'ai pris pour la première fois des cours de guitare avec quelqu'un qui est devenu un ami et un collaborateur, Andrew Pelletier, en fait, à Chicago. Donc c'était il y a à peu près, 7-8 ans que j'ai commencé la guitare. Et de fil en aiguille, Andrew, qui est un musicien qui a été formé à l'université, aux États-Unis, ce n'est pas les conservatoires, ce sont les universités qui forment, mais il était aussi dans une famille très musicale. Lui joue tous les instruments extrêmement bien, il joue de la guitare parfaitement, il joue du piano, de la batterie, de la basse. Et il est aussi très au fait de l'harmonie, de la théorie musicale. Donc j'ai pu, en travaillant avec lui initialement sur la guitare, j'ai pu dériver sur plein d'autres. J'ai pu répondre en fait à plein de questions que je me posais, auxquelles je n'avais pas forcément de réponse, ou je ne trouvais pas des réponses satisfaisantes sur Internet. Et ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de, au fur et à mesure, de prendre confiance en fait en mes capacités musicales. Et puis en fait, il a fallu l'arrivée du Covid. Je pense que ça a été un choc pour beaucoup de personnes, et ça a été aussi un starter pour beaucoup de musiciens de démarrer des projets. Moi, c'est le Covid qui m'a un peu lancé. J'avais besoin de m'exprimer. Le monde s'était arrêté. J'avais besoin d'avoir de me créer une bande sonore en fait qui correspondait à cet événement. Et avec l'aide de Andrew, qui lui entre-temps avait déménagé à Los Angeles, avec son aide en tant que mentor, en fait, on s'est recontacté. Puis on s'est mis d'accord en fait pour se rencontrer virtuellement sur Zoom ou sur d'autres, sur FaceTime, pour se parler toutes les semaines, pour qu'il me donne des conseils en fait pour avancer sur ce projet, parce que je pensais que j'avais besoin d'avoir quelqu'un à qui rendre des comptes pour faire avancer ce projet comme ça, pour plus m'arrêter et en cours de chemin, et pour plus commencer des morceaux que je laissais en friche en fait. Donc voilà, c'est un peu mon parcours musical qui a été un peu chaotique, qui n'a pas été très linéaire, mais quand même qui a été plus ou moins constant. Et la constance, elle a été plus dans la constitution du studio qui est devenu de fil en aiguille, en fait, assez conséquent. Parce que quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais la chance d'avoir un métier qui payait correctement. Et surtout, j'ai eu la chance d'arriver à un moment où... Pour moi, venant de France et d'Europe, où les synthétiseurs étaient relativement chers et commençaient à devenir assez chers pour tous les synthétiseurs vintage. Donc les vieux synthétiseurs, aux États-Unis, c'était complètement... c'était pas du tout à la mode, et puis ça n'allait pas cher du tout. Donc j'ai pu me faire plaisir, et puis j'ai pu essayer en fait tous les synthétiseurs dont je rêvais quand j'étais plus jeune et que je ne pouvais pas acquérir, en fait. Voilà, donc j'ai pu me constituer un studio comme ça, et où j'ai vraiment des instruments que j'aime beaucoup et qui m'inspirent.
Donc oui, après tu es surtout sur des instruments, donc synthétiseur, clavier. Comme tu disais, après pour recadrer les choses, donc tu as Andrew qui est un petit peu ton mentor, comme tu disais tout à l'heure. Mais est-ce que petit, tu écoutais peut-être déjà un petit peu de musique, ce qui t'a peut-être inculqué des choses, même si tu disais que tu étais dans une famille où la musique n'était pas forcément présente, mais peut-être en allant chez des amis, en écoutant différentes musiques, différents styles musicaux, est-ce que ça t'a aidé aussi?
Oui, tout à fait. En fait, comme je disais, j'étais fasciné par la musique électronique qui émergeait dans les années 80, quand j'étais un adolescent en fait au milieu des années 80, et donc j'écoutais donc Depeche Mode, Jean-Michel Jarre aussi au début, que je trouvais complètement fascinant, Art of Noise, tous ces groupes. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai dérivé plus sur des groupes plus rock. J'aimais beaucoup les Cure. Et puis j'ai dérivé vers les musiques plus de rock indé, les groupes britanniques, les groupes américains. Je dévorais, donc ça c'était un peu plus tard, mais je dévorais les Inrockuptibles avec des amis au lycée. Et j'étais fasciné par ces artistes qui me semblaient complètement géniaux, quoi. Ça me semblait complètement inaccessible de faire de la musique comme ça. Plus jeune, j'étais fasciné par la technologie aussi, donc je dévorais les magazines. Comment ça s'appelle ?
D'instruments ou de machines.
Keyboard, je crois que ça s'appelait.
Oui, keyboard, bah, tout ce qui est informatique et tout ce qui touche un petit peu au son aussi.
Oui, donc ça, moi, je. En fait, mon rêve, c'était d'être producteur. Je n'étais pas intéressé par être un artiste. Je voulais être derrière, un peu dans l'ombre, travailler sur les machines, travailler dans un studio. Je trouvais ça complètement incroyable quand je voyais les artistes que j'admirais, par exemple Peter Gabriel, Tears for Fears. Ça, c'était plus jeune. Et après, ils utilisaient beaucoup la technologie, puis ils avaient leur studio, ils avaient le Fairlight, qui était le premier sampler. Après, ça a été les groupes plus indés. Donc, j'adorais les Smiths, les Cure, Joy Division, David Bowie, tout ça. Enfin, c'était assez varié. C'était assez varié finalement. Mes parents, disons qu'ils n'étaient pas très musicaux, mais ils écoutaient quand même de la musique. Moi, j'ai grandi beaucoup avec les Beatles, Elvis Presley, et alors énormément aussi de Tamla Motown. J'étais complètement fasciné par la musique américaine. Que mes parents écoutaient dans la voiture ou à la maison. Et j'étais fan aussi de Michael Jackson, de Prince, tout ça.
Voilà, des artistes précurseurs, hein, pour la plupart de tout ce que tu as pu énumérer, que ce soit en groupe ou en artiste, hein, ils étaient quand même assez, assez productifs et puis quand même en avance sur leur temps, pour la plupart.
Oui. Au début, c'était en fait la... Comment dire, c'était beaucoup les artistes qui étaient en fait à la croisée des technologies, qui étaient, comme tu disais, en pointe dans l'utilisation des nouvelles technologies. J'étais fasciné par ça. Et puis plus tard, après, c'était plus les artistes un peu, je ne voudrais pas dire maudits, mais ouais, les artistes qui étaient un peu plus sombres. Et qui m'attirait beaucoup. Mais assez tôt, je rêvais en fait de faire de la musique, mais malheureusement, je vivais dans un tout petit village, et autour de moi, les enfants n'étaient pas intéressés. Enfin, ils étaient intéressés par la musique en termes de consommation, si tu veux, mais pas tellement en termes de production. Donc il n'y avait pas de groupe de musicaux qui se formaient avec des gens qui apprenaient des instruments, qui auraient pu... Donc j'étais un peu seul, et pour moi, la seule possibilité, ça aurait été de faire de la musique tout seul, assisté par ordinateur. Mais bon, pour ça, il fallait avoir des moyens. Et en fait, c'est en travaillant dur, en obtenant... En étudiant pendant de longues années, et puis après en ayant un bon job, que j'ai pu me permettre d'acquérir tout ça, quoi. Puis en fait, en venant à Paris pour mes études, après, j'étais aussi entouré de gens qui eux-mêmes commençaient à faire de la musique et qui travaillaient dans les domaines musicaux. Donc j'avais un ami qui travaillait à Source, Virgin, le label de Virgin, qui avait signé R. La technologie informatique, Pro Tools, les systèmes qui étaient utilisés par les studios professionnels. Et donc, ça m'a permis en fait de découvrir un peu tout ça. Thank you.
Bah justement, bon après, du coup, au fur et à mesure, du coup, le projet Port of the Light a vu le jour. Enfin, il y a peut-être eu d'autres choses avant que tu mettes en place ce projet. Et bah, du coup, bah, comment tu travailles justement, toi, en tant qu'artiste ? Est-ce que tu pars d'une idée précise ou pas du tout quand voilà, tu commences à élaborer un morceau ou autre ? Comment est-ce que tu travailles, justement ?
Alors, j'ai pas de méthode systématique de travail, mais pour généraliser, en fait, quand je réussis à composer, à finir un morceau, généralement, ça commence souvent par des improvisations que j'enregistre et sur lesquelles je vais arriver à développer d'autres idées. Et souvent, ces improvisations, elles ont lieu sur un instrument que je choisis d'étudier, enfin sur lequel je décide de travailler. Et ça peut commencer par des bidouillages sonores, quoi, ou des fois ça peut être aussi pour travailler sur, enfin jouer simplement sur un piano. Là, j'ai la chance d'avoir un piano dans mon studio, d'avoir aussi des pianos électriques, un Wurlitzer, un Rhodes. J'adore m'asseoir au piano et puis improviser. Et des fois, c'est juste, ça va me permettre d'arriver avec des idées mélodiques ou harmoniques. Et quelquefois, ça va être sur un synthétiseur avec un son qui va inspirer une mélodie ou une suite d'accords. Donc, en fait, j'ai pas vraiment de méthode systématique, si ce n'est l'idée que c'est l'improvisation qui souvent génère l'idée de départ, en fait.
D'accord, et c'est surtout sur du clavier, vu ce que tu nous dis, c'est surtout sur piano ou synthétiseur.
C'est surtout sur du clavier, ouais. C'est vrai que c'est surtout sur du clavier. Parfois, j'aime bien aussi démarrer en créant des ambiances que je monte en boucle sur un looper ou pas forcément sur un clavier, mais des fois sur des synthétiseurs plus modulaires.
Une espèce de fil recording, peut-être.
Ouais, ça peut être ça. Des fois, ça peut être même... ça m'est arrivé de démarrer sur des samples et puis après de laisser tomber les samples. Ouais, mais c'est vrai que souvent c'est sur des claviers et le plus souvent, c'est quand même sur des synthétiseurs, quoi. Donc, j'ai besoin d'avoir des machines qui m'inspirent, qui sont intuitives, qui ont des sons qui sont organiques, sont chaleureux ou froids ou qui vont vraiment me porter dans un univers et puis je vais essayer d'aller là où la musique semble aller, en fait. J'essaie vraiment d'être au maximum de travailler dans le moment présent. Par exemple, aussi ce que je fais beaucoup et ce que j'essaie de m'imposer, c'est de ne pas travailler en sauvegardant les sons que je crée. Donc j'essaie de ne pas utiliser les mémoires des synthétiseurs. Dans la mesure du possible, j'essaie aussi d'utiliser des synthétiseurs qui n'ont pas de mémoire. Comme ça, ça me force à être vraiment dans le moment présent et à faire le maximum dans le moment présent pour extraire le maximum de l'idée originale quand elle jaillit, parce que c'est souvent dans ces moments d'inspiration que tout se décide et tout se noue ou tout peut se perdre.
Des sons uniques, en fait.
C'est pour ça aussi.
C'est un petit peu une création de son unique que tu ne gardes pas, donc du coup c'est vraiment propre à un morceau qu'on ne retrouvera peut-être plus jamais sur aucun des morceaux que tu pourrais produire.
Exactement, même si j'ai des synthétiseurs qui ne sont pas super sophistiqués, donc ils gravitent toujours autour du même grain sonore, mais c'est vrai, j'aime l'idée de
construire, de créer, de modeler peut-être.
Non, c'est l'idée que tout peut se perdre et se dissoudre d'un moment à un autre, donc c'est un moment unique et il faut en profiter au maximum, quoi. Il faut être à l'écoute de la musique que j'ai dans la tête, qui ne vient pas forcément d'ailleurs de moi, mais des fois c'est quasiment, enfin j'ai l'impression quelquefois quand j'arrive à bien composer, j'ai l'impression que c'est pas cette inspiration, je sais pas d'où elle me vient, quoi. j'ai pas l'impression que c'est moi qui compose. J'ai presque l'impression que d'être simplement un canal,
une divagation canal peut-être. Peut-être une divagation, c'est-à-dire voilà, des sons en amènent d'autres et au fur et à mesure tu arrives à trouver les sons qui te plaisent, sur lesquels tu accroches.
Oui, oui. Et j'arrive à. En fait, souvent, ce qui va me permettre de savoir que je suis sur la bonne voie, c'est quand je ressens quand j'arrive à ressentir une émotion très forte, c'est là que je sens que je tiens quelque chose et que je vais arriver. J'essaie de le pousser au maximum. J'essaie de pousser l'idée au maximum pour aller au bout de cette idée, en fait.
Thank you.
Tu me disais que ton projet, du coup, est né pendant la période Covid, comme beaucoup d'artistes sont vraiment mis, je dirais pas corps et âme dans la musique, mais c'est vrai que du coup, on était assez, assez cloîtrés. Je ne sais pas si c'était le cas pour toi. Nous, on était vraiment cloisonnés à la maison avec des autorisations pour sortir, qu'on se faisait nous-mêmes pour aller au travail ou pour aller faire des courses, enfin, récupérer des courses. Mais, donc j'imagine que voilà, le projet est né et puis que voilà, beaucoup de sons sont nés justement durant cette période, beaucoup de morceaux.
Et pour moi, ouais, donc il y a eu ce... Il y a eu cette période où j'ai fait pas mal de morceaux et ça a été une libération. Même, je ne suis pas forcément très fan de ce que j'ai fait à cette époque, même s'il y a quelques morceaux que j'aime bien. Mais ça m'a libéré. C'est-à-dire qu'avant, je pense que ce qui me paralysait, ce qui m'empêchait de vraiment faire de la musique et de finir en fait, la musique que je commençais, c'est que j'avais peur de me décevoir parce que pour moi, la... En grandissant, la musique était tellement importante émotionnellement, ça m'a permis de passer à travers des moments assez difficiles. Ma vie familiale n'était pas très facile, j'avais des parents un peu, une famille un peu difficile. Et donc, c'était, je me suis raccroché beaucoup à la musique en, en grandissant. Et pour moi, la musique avait cette dimension presque de survie, enfin, je, presque de survie, oui, psychologique, on dira. Et pour moi, la musique est sacrée, était sacrée, et j'avais peur de me décevoir en faisant de la musique qui était au final médiocre, mais on passe tous par des périodes de composition de musique médiocre si on veut, si on veut arriver à faire de la musique à peu près correcte, qui nous plaise, et quand on a des goûts un peu pointus, c'est difficile à accepter. Donc j'avais du mal à l'accepter, puis là, je me suis lâché, je me suis dit, bon, écoute, ça ne sert plus à rien de se prendre la tête, à vouloir faire de la musique géniale, à vouloir faire d'une, un nouveau projet à la Radiohead, être aussi bon que Thom Yorke et Johnny Greenwood, ce n'est pas la peine de se foutre la pression comme ça. Je m'autorise à faire de la musique un peu pourrie et je vais juste le faire pour moi, quoi. Et ça m'a libéré. Puis au final, en m'autorisant à écrire de la musique un peu moyenne, j'ai réussi à me faire plaisir. Et puis, de fil en aiguille, la musique a commencé à devenir un peu meilleure, à me plaire davantage. Et voilà, donc ça a été un peu la libération pour moi, le Covid. Effectivement, on était aussi un peu confinés, même si on avait moins de contraintes qu'en France. On était plus libre de se déplacer, mais c'était quand même assez pesant.
Ton projet est un projet plutôt studio ou tu penses le faire évoluer justement au travers de live ou en tout cas d'événements du même genre ?
J'ai pas trop... j'ai un peu peur de le faire en live. Je me sens pas encore prêt, mais je pense que ça risque d'être un peu... Je pense que pour moi, c'est la nouvelle frontière encore. C'est qu'il va falloir que j'arrive à me convaincre que c'est pas la peine d'avoir peur de faire ça en live. Peut-être que je suis capable de le faire, même si c'est vrai que techniquement, je ne sais pas si je suis au niveau pour... j'ai quelques doutes sur mes capacités de jouer en live les instruments. Mais c'est vrai que c'est plutôt un projet de studio pour l'instant, parce que pour moi, ça a toujours été le travail de l'ombre, le travail de production qui m'intéressait, le travail sur les textures sonores... j'étais fan des grands artistes et, qui étaient des showman et tout ça, mais ce qui m'attirait plus, c'était les travailleurs de l'ombre dont on parlait pas beaucoup, comme Daniel Lanois, comme Brian Eno quand il produisait U2. Je rêvais d'être ces gens-là, ces artistes de l'électronique qui composaient les textures derrière les morceaux de U2. Comment il s'appelle aussi,
David Bowie. Brian Eno aussi a beaucoup travaillé avec David Bowie.
Oui, beaucoup travaillé avec David Bowie, oui, toute la période berlinoise. Pour moi, c'est plus ce qui m'attire plus pour le moment, c'est le studio et je ne suis pas sûr de pouvoir recréer ça en live. Mais ça peut évoluer, ouais, ça pourrait évoluer. Je sais que Andrew essaie de me pousser à faire du live. Et c'est peut-être quelque chose que je pourrais envisager de faire dans le futur. Andrew m'a beaucoup poussé, il a été hyper important pour moi, pour m'aider en fait à passer à travers ces caps un peu. Ces freins que j'avais en fait, ces freins psychologiques, c'est lui aussi qui m'a obligé à aller en studio, travailler avec un ami à lui qui avait bien aimé mon premier album, Bo Sorensen, qui est un producteur que j'admire beaucoup aussi pour sa musique. Il fait aussi de la musique expérimentale électronique sous le nom Bo Noise. Et il travaille un peu partout, mais il était basé essentiellement autour de Berkeley dans la baie de San Francisco. Et Andrew m'a suggéré d'aller travailler avec lui et Bo Sorensen dans ce studio pendant 5 jours pour aller enregistrer. Et ça a été pour moi aussi encore une fois un nouveau déclic en fait, qui m'a permis de passer une nouvelle étape et de prendre un peu plus confiance encore dans mes capacités à faire de la musique, parce que j'ai toujours un peu un doute par rapport à... Je doute toujours un peu du fait que cette musique puisse être très intéressante. Et je pense que travailler avec Bo, qui lui, il a travaillé avec des artistes que j'admire énormément. J'étais un énorme fan de Sparkle Horse, par exemple, avec lequel il a travaillé, qui était un artiste indie que j'admirais énormément. Il a aussi travaillé avec Death Cab for Cutie, il a travaillé avec beaucoup de groupes de la scène indé, du label 4AD. Et donc le fait de travailler avec quelqu'un comme ça, qui semblait aimer ma musique et qui m'a aidé à la pousser encore un peu plus loin, c'était vraiment une super expérience. Donc Pourquoi pas lancer un jour dans du live, mais pour l'instant c'est pas encore à l'ordre du jour.
Ce n'est pas l'ordre du jour. Et donc tu as même deux mentors, Andrew et puis du coup cet ingénieur du son, donc qui sont vraiment assez essentiels pour toi, pour tout ce qui est vraiment production pour ton projet. Tu travailles essentiellement en solo, bien entendu. Mais est-ce que voilà, eux sont aussi du coup beaucoup de sources d'inspiration et aussi d'encouragement, de motivation, vu ce que tu nous dis.
Exactement. Ouais. Oui. Alors avec Bo et Andrew, on essaie de se retrouver. Donc on est toujours en contact de toute façon régulièrement avec Zoom, avec FaceTime et tout ça. Mais on essaie de se retrouver physiquement à un endroit. Pour travailler sur de la nouvelle musique pendant une semaine. Donc la première fois, c'était en décembre 2021, où on a passé 5 jours ensemble dans le studio Tiny Telephone, qui est basé à Oakland, en Californie, juste à côté de Berkeley. Et là, l'été dernier, en fait, Andrew et Bo sont venus à Chicago et on a travaillé en fait dans le studio que j'ai construit ici à Chicago. Voilà, donc on a passé une semaine ensemble à travailler sur de la nouvelle musique. Effectivement, c'était vraiment super agréable. Et puis, le fait de se retrouver comme ça ensemble dans un même endroit, ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas nécessairement faire quand on est à distance, même si on se parle et qu'on peut se donner des conseils. On peut s'aider mutuellement. Moi, j'essaie aussi d'aider Andrew. Il a un projet plus folk, indie folk, qui s'appelle Fur Trader. Et des fois, je l'aide aussi pour créer des ambiances sonores avec mes synthés.
C'est de l'entraide.
C'est de l'entraide. Ouais. C'est un petit réseau d'entraide qui est vraiment très, très utile pour moi et que j'apprécie beaucoup. Et puis, c'est des musiciens que je respecte énormément pour le travail qu'ils font, eux, dans leur propre domaine. Andrew, lui, c'est un compositeur musicien qui est extrêmement dont j'aime beaucoup la musique, dans un style très différent. Et Bo, lui, c'est un producteur, ingénieur du son, mais c'est aussi un artiste électronique. Donc il a plein de facettes, plein de cordes à son arc. Et c'est vraiment intéressant de travailler avec eux.
On va aussi parler un petit peu de ta discographie. Donc, je ne sais pas si je vais énumérer, c'est dans l'ordre, dans le bon ordre. Donc, après, il y a déjà eu le LP Invertebrates. Je ne sais pas si je le prononce bien.
C'est parfait.
Ouais. Donc voilà, bah, ça a été assez facile de trouver. Donc, c'est toujours la même méthode de travail, comme tu disais. Voilà, une recherche, une divagation pour trouver le son qui va bien, j'imagine. Après, c'est des LP et des EP au départ. Il y a aussi Soft Sun.
C'est un EP que j'ai fait, en fait, qui a été... à la base, c'était basé sur... comment dire... C'est basé sur un instrument. J'avais découvert en travaillant justement avec Bo Sorensen à Tiny Telephone à Oakland en Californie, là, dans ce studio. Ils avaient un Wurlitzer et ils ont J'avais une composition que j'avais faite et enregistrée sur un Rhodes, un Fender Rhodes, qui est un autre clavier, un piano électrique, qui est un son un peu différent du Wurlitzer, un peu moins chaud, plus cristallin. Donc c'était Next We Float, qu'on a enregistré en fait à Auckland avec Andrew à la guitare. Et on l'a joué en fait en live, et enregistré en live avec Andrew à la guitare, moi sur le Wurlitzer. Et ça m'a complètement... c'est un instrument qui m'a scotché parce que je ne le connaissais pas du tout, le Wurlitzer. Je suis tombé amoureux de cet instrument et j'ai réussi à en trouver un en fait à Chicago à mon retour. Et j'ai beaucoup composé sur ce Wurlitzer et c'est ce qui a donné en fait l'EP, même s'il y a un morceau qui est un peu différent et qui n'utilise pas le Wurlitzer, mais au départ l'inspiration c'était le Wurlitzer en fait, c'était le son, pour moi c'était le son du soleil, quoi, de la chaleur, la chaleur un peu vitale et l'énergie vitale du soleil, et je l'ai sorti le jour du solstice d'été, voilà. Donc, c'était un EP où j'avais 4 morceaux. La plupart sont basés sur le Wurlitzer, plus quelques synthés. Et j'ai un morceau qui s'appelle Blue Star, lui, qui était un peu différent, qui était basé sur des synthés et des enregistrements sur des bandes magnétiques qui étaient ralenties pour donner ce son un peu très profond et éthéré. Ouais.
D'accord. Et pour Invertebrate, est-ce qu'il y avait justement un instrument de prédilection ou pas du tout? C'était vraiment une autre organisation ou pas? Comment ça s'est construit?
Sur Invertebrate, il y avait quelques synthés autour desquels je gravitais beaucoup, mais j'ai pas mal travaillé en fait, et c'était une première pour moi. Je travaillais avec, parce que à l'époque j'avais pas de piano, enfin j'avais un piano à la maison, mais j'avais pas les capacités pour l'enregistrer bien, et je savais pas comment bien l'enregistrer. Mais j'utilisais beaucoup les banques d'échantillons en fait, de cordes et aussi de piano. Donc j'ai pas mal travaillé en fait avec l'ordinateur et avec des synthés analogiques. Donc je travaillais avec l'Oberheim OBX. C'est l'un des premiers polyphoniques analogiques du début des années 80, je crois. Et puis, il y a mon synthé préféré qui est là sur quasiment tous mes morceaux, qui est le Korg PS3100, qui est l'un des tout premiers polyphoniques aussi, qui n'a pas de mémoire, qui a juste un oscillateur par voix. C'est un peu l'ancêtre du MS-20, du Korg MS-20. Mais en version polyphonique, et qui a un timbre très doux et que j'adore.
Les instruments un petit peu vintage, comme tu disais, mais voilà, on retrouve un certain grain, une certaine sonorité qui fait que voilà, on reconnaît ta signature. Et il y a eu aussi donc un single il y a quelques semaines, quelques mois peut-être, Simian Dreams.
Oui, alors Simian Dreams. Ouais, c'est un morceau en fait que j'ai sorti. C'est un morceau qui est sur le nouvel album que j'ai sorti il y a quelques jours en fait, qui s'appelle Someplace Better. Et donc Simian Dreams, c'est un des morceaux que j'ai enregistré avec Bo Sorensen et Andrew, avec Andrew qui cette fois a joué la basse. J'avais composé la basse, mais lui l'a réenregistré en fait en studio. Et voilà, donc ça c'était une des compositions que j'avais emmené en fait en studio et qu'on a réenregistré, sur lesquelles on a ajouté pas mal de quelques productions additionnelles avec l'aide de Beau, qui a eu l'idée d'ajouter quelques rythmes pour élever un petit peu l'intensité du morceau en cours de route. Et ouais, donc Simian Dreams, c'est un morceau, ouais, c'est un
qui
morceau
fait partie de cet album. Tu pourrais redonner Someplace Better, c'est ça, si j'ai bien compris?
Someplace,
d'accord, better, j'ai compris, ouais. Please, Place Better,
d'accord. Someplace Better, ouais.
Très bien.
Et tout comme d'ailleurs Next We Float, qui était sur le EP of the Sun, qui était issu de cette session d'enregistrement en fait à Auckland, qui est également dans le, qui fait partie de la tracklist de l'album. En fait, je l'avais. Cet album, ça fait depuis un moment qu'il est dans le pipeline en fait. Et j'hésitais un peu à le sortir, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mis un peu de temps à me décider à le sortir, mais il est là depuis pas mal de temps. J'ai travaillé dessus pendant bien quasiment 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi. Je crois qu'il y a 13 morceaux dessus.
D'accord, donc ça a été vraiment un album vraiment mûri, avec tout ce temps pour que les morceaux soient vraiment... Et vraiment le rendu que tu voulais, vraiment au cordeau, si je puis dire.
Oui, exactement.
De manière précise.
Et puis, c'est. Certains des morceaux ont été enregistrés, comme je le disais, à Auckland avec Beau, mais il y a d'autres morceaux que j'ai écrits plus tard à la maison après cette session. Mais tout a été mixé, en fait, par Beau Sorensen, ouais, qui a fait un travail remarquable, je trouve. En tout cas, qui a aidé à magnifier un peu le son que j'avais en tête et qui a vraiment bien compris l'idée, le paysage sonore que je voulais peindre en fait avec cet album.
Et est-ce qu'il y a aussi du coup d'autres projets, d'autres EP ou d'autres albums à venir prochainement, dans les mois à venir peut-être, ou enfin en tout cas pour cette année 2024?
Ouais, alors je suis toujours en phase de réflexion, parce que j'ai eu une période où j'ai été assez prolifique. J'ai quasiment une centaine de morceaux que je n'ai pas sortis. Je les sortirai pas tous, mais il y en a certains que je vais peut-être sortir dans les mois qui viennent en tant que EP. Et mais ma priorité, c'est quand même de travailler sur un nouvel album sur lequel j'ai commencé à travailler. Puis j'ai aussi un projet, en fait, avec Andrew, où on va justement faire de la musique qui est peut-être un peu plus dans un style très différent, qui va être plus orienté pop, électropop. Et on a déjà fait des enregistrements là ensemble quand on était à Chicago, dans mon studio. Et donc on va peut-être faire d'autres morceaux pour sortir un EP, ou sinon on sortira juste un single. Et puis je travaille également, donc là, ces derniers temps, j'étais assez fasciné par les chants sacrés du Pérou dans les forêts amazoniennes. Ce sont des chants qui s'appellent les Icaros. J'étais complètement fasciné par ça. Alors, je ne sais pas si je pourrais le sortir, parce qu'il y a des problèmes de droit, j'imagine. J'essaie de trouver les ayants droit pour ces enregistrements, pour pouvoir utiliser des samples de ces voix. Mais j'ai fait quelques morceaux pour moi, pour mon propre plaisir, de ces chants sacrés péruviens, qui sont normalement destinés à être une médecine pour les âmes humaines, et que je trouve fascinante et très très belle, et que j'ai essayé de mettre en musique sous forme un peu ambiante.
Oui, une espèce d'ethno-ambiante, si je puis dire, enfin voilà, en tout cas dans le style ambiant.
Ouais, ouais, c'est un peu ça. Bon, ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai pas non plus envie d'exploiter le... Comment dire, l'art de ces gens sans pouvoir. Donc il va falloir que je trouve un moyen de les contacter, mais c'est un peu difficile, parce qu'en fait j'utilise aussi c'est plus des vidéos que j'ai trouvées sur internet que j'utilise, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Pour ma propre consommation musicale, c'est des morceaux que j'ai beaucoup apprécié d'écouter moi-même. Donc je me dis peut-être que si je trouve un moyen de contacter les ayants droit, je vais peut-être les sortir. Je vais peut-être sortir quelques morceaux.
Que tu as aussi peut-être des scoops à nous faire part, je ne sais pas. Enfin, après, si tu peux en parler, hein, bien entendu, concernant donc ton projet ou peut-être d'autres projets que tu aurais en tête, je ne sais pas.
Non, je n'ai pas de scoop.
Pas de scoop. Non, mais il n'y a pas de souci. Je demandais à tout hasard.
Mon scoop, c'était peut-être ce que j'annonçais là sur les.
D'accord.
Sur les Icaros. Je ne sais pas si ça se matérialisera, voilà. Mais.
D'accord.
Mais okay. C'est encore à l'état de projet, ouais.
Oui, d'accord. Alors, du coup, où est-ce qu'on peut retrouver justement tous tes albums on peut se procurer ça sur des plateformes, chez des disquaires.
Alors, sur toutes les plateformes de streaming, je suis disponible. Alors, il y a une exception quand même à noter, c'est que Apple Music, après maintes tentatives, n'a toujours pas changé le nom d'artiste que j'avais initialement. Enfin, initialement, quand j'ai commencé ce projet, j'avais choisi le nom Baby Epsilon. Et Apple Music continue d'enregistrer en fait toute ma musique sous le nom Baby Epsilon. Donc, si vous voulez retrouver Pour Out the Light sur Apple Music, il faut chercher Baby Epsilon.
Sur Bandcamp, peut-être
si. Après, sur Bandcamp, ouais. Oui, sur Bandcamp, je suis. Alors, c'est l'un des endroits sur lequel on peut acheter ma musique aussi. Et sur Amazon, je crois qu'on peut l'acheter. Et sur Apple Music, mais sous le nom est Baby Epsilon.
D'accord, Baby Epsilon, voilà. Un autre pseudonyme. Non, mais après, c'est vrai que c'est oublié de faire...
C'était mon premier pseudonyme que Andrew m'avait conseillé de le changer. Il ne trouvait pas que ça collait avec l'ambiance du projet. Et je pense que les gens aussi ne comprenaient pas la... C'était une référence, en fait. C'était une référence multiple. Il y avait des références multiples, mais c'était une référence littéraire aussi par rapport au roman Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, avec la caste des Epsilon qui était la sous-caste. Enfin bon, il y avait toute une idée derrière ça, sous-jacente, mais les gens ne captaient pas ça. Et puis ça faisait un peu penser à... Ça faisait plutôt penser à un projet de hip-hop ou de rap qu'à un projet ambiante, me disait Andrew, qui est plus au fait de toutes ces choses-là et auxquelles je fais confiance pour ce qui concerne la langue anglaise. Donc,
voilà. Et du coup, ce projet, pourquoi pas Out the Light aussi? Est-ce qu'il y a une histoire, une signification?
Oui, pour Out the Light, ça veut dire... je ne sais pas comment le traduire correctement en français, ça voudrait dire « déverse la lumière
». Oui, ça fait très ambiante, en tout cas.
Oui, c'est assez ambiante. Et en fait, c'était initialement le titre d'un morceau qui, pour moi, a été un peu une révélation. Comme je le disais, il y a eu cet enregistrement en fait, à Auckland avec Bo et avec... Et avec Andrew, on a enregistré en direct, en live, dans le studio, on jouait en direct ce morceau qui est devenu Next We Float, qui est sur l'EP Soft the Sun, mais qui est aussi sur l'album Someplace Better, sur le Wurlitzer. Et initialement, ce morceau s'appelait Pour Out the Light. Et pour moi, c'était vraiment un morceau symbolique et qui représentait pour moi vraiment, c'était le morceau que je trouvais le plus abouti que j'avais fait. Et j'ai eu envie d'utiliser ce titre qui était aussi inspiré d'un poème, je ne me rappelle plus je me rappelle plus du nom de la poète dont il s'agit.
Non, mais en tout cas, il y a eu une histoire par rapport justement à... Comme Baby Epsilon, c'est pareil. Voilà, c'est pas un titre comme ça trouvé au hasard. Il y a vraiment une signification, une histoire derrière.
Non, oui. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Je pense que pour moi, comme je l'ai expliqué plus tôt dans l'entretien, la musique a toujours une dimension un peu sacrée. Ça m'a permis de traverser des moments difficiles dans ma jeunesse. Et donc je voulais faire un projet musical qui représente un peu ça, c'est-à-dire que c'est apporter de la lumière sur des moments difficiles de la vie et quelque part ma musique, je pense que inconsciemment quand je la fais, j'essaie de m'envoyer des messages, de faire une musique qui me réconforterait quand j'étais plus jeune. Donc c'est un peu c'est un peu l'idée d'apporter du réconfort en fait à la version de moi-même qui était plus jeune et qui était parfois en souffrance quand j'étais adolescent ou plus jeune. Donc voilà, c'est pour apporter de la lumière et du réconfort, j'imagine. C'est un peu la signification de ce projet, de ma musique.
Après, on peut aussi te retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, surtout Facebook, peut-être.
Facebook, je ne suis pas très présent. Il va falloir que je... Pour tout dire, je suis un peu négligent pour tout ce qui concerne l'aspect promotion et réseaux sociaux. Le réseau social sur lequel je suis le plus présent, c'est probablement Instagram. Oui. Mais il va falloir que... Il faudrait quand même que je... Ouais, ce serait bien que je sois un peu plus présent. Mais là, j'essaie... Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de me concentrer sur la musique. Essayer de continuer à m'améliorer parce que j'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie à avoir peur de faire de la musique, peur de me décevoir en faisant de la musique. Et donc, la promotion, bon, il paraît qu'il faut passer du temps sur Instagram et tout ça, mais pour se promouvoir et pour être écouté des gens, j'ai encore un peu de mal à m'habituer à ça et à le faire de manière disciplinée.
C'est pas évident. Ouais. Mais en tout cas, si on veut te contacter pour des questions, pour différentes choses, ouais, tu restes de toute façon facilement contactable, si je puis dire, surtout sur Instagram, où tu es un peu plus actif que sur Facebook, vu ce que tu nous dis.
Exactement, ouais. Sur Facebook, je ne sais même pas si j'ai paramétré mes pages correctement, pour tout dire. Mais oui, sur Instagram, bah, d'ailleurs, c'est comme ça que tu m'as contacté.
Effectivement, ça commence souvent sur les réseaux.
Oui, exactement.
Voilà, bah, pour découvrir effectivement ton univers. Ben, en tout cas, merci de nous avoir éclairé justement sur ton parcours musical, sur ton projet Power of the Light. Voilà, donc après, si on veut se procurer tes albums, on peut donc se connecter sur Bandcamp ou puis écouter aussi donc sur différentes plateformes, comme tu disais, Apple Music, mais sous le pseudo Baby Epsilon, c'est bien ça. Voilà. Et tu es peut-être aussi sur d'autres... D'autres plateformes.
Alors, je suis sur tous les autres réseaux. Hein, sur
Spotify, peut-être.
Sur les autres plateformes, sur Deezer, sur Spotify, sur Tidal. Normalement, je suis sur toutes les plateformes de streaming.
Bah, très bien. Donc, juste en cherchant Power the Light, donc P-O-U-R, plus loin O-U-T, The Light, T-H-E-L-I-G-H-T. Et donc on peut te trouver très facilement sur toutes ces plateformes d'écoute et bien sûr sur Bandcamp. Bien, bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris un petit peu de ton temps pour justement cette invitation, cette petite entretien sur l'émission Ambient Memory. Écoute, on reste à l'affût de tous tes événements, de toutes tes sorties, donc sur Instagram surtout. On peut te souhaiter de continuer dans cette dynamique, puisse avoir encore de nouveaux morceaux, nouveaux opus à nous faire découvrir. Voilà,
merci beaucoup.
Je te remercie encore. Et puis comme je disais, on reste à l'affût de tes nouveautés, de tes événements, de tes nouvelles informations et tes productions.
Merci beaucoup.
Je t'en prie. Et à très bientôt, je l'espère, pour qu'on puisse parler
bientôt,
encore d'autres,
oui.
d'autres choses, d'autres morceaux, d'autres albums à venir. Je l'espère.
Ce sera avec plaisir.
Et le plaisir est partagé. Bonne soirée à toi et puis à très bientôt.
Bonne soirée à toi et bonne soirée à tous les auditeurs.
Retrouvez dès demain l'émission en podcast sur les plateformes habituelles. Vous pouvez contacter via Instagram Sébastien pour plus d'informations ou vous connecter sur les réseaux sociaux d'Ambient Memory. Vous avez pu écouter durant l'interview les morceaux suivants. Extrait de l'EP Soft the Sun, Blue Star et Next We Float. Extrait de l'album Someplace Better. Analysis, paralysis et et Air Fit We Always Cold. Et nous avons terminé par Simeon Dreams, le dernier single de Power of the Light. Vous pouvez vous procurer les morceaux ainsi que les albums sur le compte Bandcamp de Power of the Light. Je vous donne rendez-vous, quant à moi, la semaine prochaine pour un nouveau voyage. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao!